Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Diffusé tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Mydia Portis-Guérin avec Jean-Richard Dufour à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Marine Boisté, Claire Delnat et Adèle Van Rett. Adèle qui recevra Anissa Castel tout à l'heure à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour vous parler d'un livre qu'elle vient d'écrire dans la collection Chouette Pensée chez Gallimard sur la question d'un lieu à soi. Suite et suite, pour nous, chez nous, ce jeudi, d'une semaine sur le bac philo dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine d'aide aux futurs bacheliers et d'hommage à leurs professeurs qui abattent un travail remarquable dans des circonstances fatalement difficiles, puisqu'en vertu d'un dogme obsolète, l'enseignement de la philosophie est pour l'heure encore limité à la classe de terminale, ce qui rend indigeste son programme et insurmontable la perspective de l'épreuve. Une semaine organisée en partenariat avec Philosophie Magazine, dont je vous recommande à l'avance et vivement le prochain hors-série sur le bac philo, à paraître le 21 avril et rédigé sous la houlette du camarade Charles Pépin. Après Alexandre Larguier, Olivier Chapignac et David Le Breton, avant Élodie Cassan, c'est aujourd'hui Anne-Sophie Rémy qui est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Anne-Sophie Rémy qui enseigne la philosophie au lycée de Neuchâteau dans les Vosges et qui planche aujourd'hui sur la question de savoir s'il faut être cultivé pour comprendre une œuvre d'art. Bonjour Anne-Sophie Rémy.
Bonjour Raphaël.
Bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. On entame avec vous une discussion, une dissertation, hein, puisque c'est vraiment l'objet de cette semaine, de proposer 5 dissertations, qui sont 5 possibilités sur aujourd'hui la question de savoir s'il faut être cultivé pour comprendre une œuvre d'art. Vous êtes donc élève, provisoirement, de nouveau, et vous avez ce sujet, vous passez le bac, vous avez ce sujet sous les yeux. Comment réagissez-vous, Anne-Sophie Rémy?
Alors, à mon avis, il faut déjà commencer par tenter de définir les termes en présence. En particulier, dire ce que c'est qu'être cultivé, et puis se demander également quels différents sens on peut affecter au terme « comprendre » quand il s'agit d'une œuvre d'art, car toute la dissertation va consister à articuler ensemble, de manière progressive et conjointe, ces différents termes.
Mais il faut quand même comprendre une chose, ou comprendre ou expliquer hein, justement une
Absolument.
Chose. C'est que comprendre n'est pas expliquer, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'examen des termes du sujet est indispensable à la construction de la problématique.
Hein. Oui.
C'est essentiel.
Alors évidemment, la culture, dans un sens premier, ça renvoie à l'ensemble des connaissances qu'on a acquises, à l'instruction, au savoir disponible au sein d'une société donnée. Et puis, pour nous, qui sommes les Occidentaux contemporains, ça signifie aussi que nous avons accès au contenu de savoir des siècles passés, grâce en particulier à notre connaissance historique et aux traces que l'histoire nous a transmises. Être cultivé, c'est être un homme instruit, possédant une vision transhistorique des siècles passés, qui peut inclure les mœurs, le fait religieux, etc. Alors, comprendre une œuvre d'art, c'est là où ça, justement, ça suppose une petite définition un petit peu plus importante. Qu'est-ce qu'on entend par comprendre? Est-ce que c'est une saisie globale de l'œuvre? Est-ce que c'est quelque chose qui se rapporte plutôt à l'intuitif, qui ouvre la voie à de nombreuses interprétations? Comprendre, si on sépare un peu les deux parties du mot, comprendre, faire sien, absorber l'œuvre pour en être transformé sur un mode différent d'une saisie intellectuelle qu'on pourrait qualifier d'empathique? Ou bien est-ce que comprendre veut dire simplement intelliger? Et alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit justement d'expliquer par l'analyse les différents éléments qui composent une œuvre d'art?
Est-ce qu'au fond il n'y a pas une contradiction? Et peut-être là on tient une problématique, Anne-Sophie Rémy, entre l'accumulation, ou en tout cas ce que suppose en termes d'accumulation de savoir le fait de se cultiver, et la valeur, au fond, intuitive, instinctive, spontanée, qui est implicitement contenue dans le verbe comprendre et qui le distingue de, ou le distinguerait peut-être de la notion d'explication. Est-ce qu'au fond, la tension n'est pas entre la valeur un peu sédimentaire de la culture, un peu accumulative de la culture, et la valeur intuitive de la compréhension?
Tout à fait. C'est ce que je qualifierais dans un sens par le choc émotionnel, celui qu'on peut ressentir devant une œuvre d'art. Et puis, de l'autre côté, un petit peu l'accusation qu'Hannah Arendt fait porter sur le philistin. Celui qu'elle appelle le philistin cultivé, c'est-à-dire celui qui, soit va finalement être dans une démarche d'accumulation, comme vous le disiez, ou encore même qui va détourner finalement la finalité de l'œuvre d'art et chercher à travers elle quelque chose qui est de l'ordre de, on va dire, l'agencement de soi, quelque chose qui est de l'ordre de du perfectionnement de soi.
C'est ce que Proust appelle les célibataires de l'art, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est dans le temps retrouvé, où il dit, il ne faut pas leur en vouloir quand même. Les célibataires de l'art, c'est ceux qui ratent aucune expo, qui ratent aucun concert, qui applaudissent à tout, qui ont vu le dernier Debussy, si j'ose dire, et qui vont voir Debussy comme on prend le bus. Alors, ce n'est pas une métaphore de lui, mais c'est assez parlant quand on lit le temps retrouvé. Et il dit, mais il ne faut pas leur en vouloir, parce que c'est quand même une première tentative, et il dit... C'est comme si la nature avait... Ce sont des esquisses d'oiseaux et ils ont gardé... Il faut retenir de ces gens-là au moins le désir de voler. Juste une chose, Anne-Sophie Rémy, avant de formuler la problématique. Est-ce que... vous avez commencé par une série de définitions de la culture que, bon, en toute rigueur, aucun élève de terminale, dont aucun élève de terminale, à moins d'être exceptionnel, ne dispose le jour de l'épreuve. Est-ce qu'au fond, un élève qui lit ce sujet peut s'en sortir, sans paniquer, tout simplement en s'en tenant à ce qu'il sait, à ce que sa culture, sa propre culture, lui permet de savoir du fait d'être cultivé, c'est-à-dire au fond, savoir des choses, apprendre des trucs sur le peintre dont on regarde le tableau?
Oui, je le pense. Je pense vraiment qu'un élève de terminale, avec une connaissance modérée même de l'histoire de l'art, peut tout à fait s'en sortir. Alors évidemment, ici, on est entre guillemets dans l'ordre du modèle un petit peu, mais
et oui et non, hein, en même temps, parce
oui
que
non,
on passe aussi l'épreuve.
Il faut bien qu'il soit aussi effectivement à la portée de l'élève. Mais oui, parce qu'il a, il a pu faire l'expérience d'un choc esthétique, et donc on va dire avoir une sorte de révélation d'ordre intuitif. Il a pu, je vais prendre un exemple tout bête, mais qui en même temps celui d'une œuvre frappante. Il a pu voir un magnifique retable ancien à l'occasion d'une visite dans un musée, comme par exemple celui de Matthias Grunewald. Et puis, même s'il ne sait pas grand-chose du contexte, même s'il ne sait pas grand-chose de l'auteur et de la culture religieuse que ça sous-entend, il a pu être frappé par la représentation de la souffrance et avoir un sentiment de communion, je dirais, d'empathie profonde avec le tableau.
Donc il n'est pas nécessaire de savoir ce qu'est un retable, de savoir qui est Grunewald, pour, allant à Colmar par hasard, voilà, tomber dessus et être bouleversé par
absolument
ça. Et là, on a peut-être la matière d'un problème, non ? D'un axe qui nous servirait pour la dissertation tout entière, Anne-Sophie Rémy.
Oui, c'est évident. D'ailleurs, je commencerais, si j'étais élève, par l'explication, enfin par la mention de ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune. Et tout élève sait faire ça, c'est-à-dire il se met dans la peau de l'homme de la rue. Il se met dans la peau de quelqu'un qui, justement, n'a pas d'éléments de culture particulier, et puis qui se dit, mais finalement non, finalement non. D'abord, le premier choc qu'on reçoit sens d'une œuvre, c'est celle de son aspect dérangeant ou de sa beauté, etc. C'est vrai, un roman pose le cadre de sa compréhension. Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, il n'y a pas besoin d'avoir un préalable particulier pour aborder l'œuvre.
Il n'y a pas besoin de connaître les Trois Glorieuses, il n'y a pas besoin de connaître les journées de juillet 1830 pour comprendre que Hugo les transpose au 15e siècle avec l'attaque de Notre-Dame de Paris. Il n'y a pas besoin d'une certaine manière, même on peut même en lisant Notre-Dame de Paris, se passer d'un certain nombre de descriptions qui sont dans le livre lui-même et où Victor Hugo se fait plaisir et qu'on peut lire avec intérêt mais qui en elle-même n'enlève rien à la compréhension du livre.
Et se concentrer sur l'intrigue, tout simplement. Mmh. Et par ailleurs, je dirais que tout de suite, de façon antinomique, l'élève peut se dire, oui mais quand même, il y a des tableaux ou des œuvres d'art, des statues que j'ai vues. Je pense au musée des arts premiers. Et puis, il y avait des choses qui m'échappaient parce que j'ai vu ça comme avec une belle étrangeté. Mais pour moi, c'était un peu comment peut-on être persan finalement. Je le voyais de l'extérieur. L'élève a naturellement l'intuition que si on parle d'œuvres ethniques, mais également pour certaines œuvres d'art du passé, il y a tout un pan de la culture qui est convoqué et qui permet de mieux saisir, on va dire, les enjeux cognitifs de l'œuvre.
Vous avez dit comment être persan, comment peut-on être persan ? C'est dans les lettres persanes, c'est génial, c'est le moment où les persans arrivent à Paris et les dames les accueillent, en disant, ah, vous êtes persan, mais cela est singulier, mais comment peut-on être persan ? Ce qui est intéressant d'ailleurs avec cette question, on va aller vers la problématique, mais arrêtons-nous un instant là-dessus, c'est que c'est une question stupide. comment peut-on être persan, comme si c'était une originalité, comme si c'était un choix de la part du persan d'être persan, comme si c'était une opportunité étonnante, comme si c'était vraiment quelque chose de dissident. Et donc c'est une façon de se prendre soi-même pour une norme et considérer que celui qui n'est pas français de Paris est un original. C'est aussi une question géniale, parce que c'est aussi une façon de s'émerveiller des choses qui pourraient nous sembler familières ou habituelles, et au fond de ménager la possibilité d'être surpris. En quel sens allez-vous vous servir d'une telle question, Anne-Sophie Rémy ? Émerveillement ou connerie ?
Non, je pensais plutôt à quelque chose qui, bizarrement, nous met dans une situation un peu étrange face à certaines œuvres. Je veux dire par là qu'on peut en goûter peut-être le sens ou la beauté de loin, mais avoir quand même l'impression que l'œuvre résiste, l'œuvre nous résiste, et que finalement on ne comprend ou on ne perçoit bien une œuvre d'art que si on en est contemporain. C'est une idée que défend Panofsky, hein. Il montre que finalement, la culture, c'est d'abord celle de la civilisation dans laquelle on vit, dans laquelle on est plongé, celle qui nous est co-naturelle, immédiate, innée, intuitive, en quelque sorte. Et à partir du moment où on est transplanté loin de cela, eh bien, il faut partager au moins avec les gens du passé, on va dire, une fluidité, une communication possible quand même des intérêts et des goûts. Sinon, c'est trop loin pour nous, je pense.
Alors, allons-y. Problématique. Comment on fait ? Quel est le fil conducteur de cette dissertation ? Comment est-ce que vous la formuleriez ?
Alors, le fil conducteur, c'est déjà de partir de l'idée qu'on n'a pas besoin d'être expert pour vivre finalement un choc au contact des œuvres. Et que l'œuvre fait peut-être profondément écho à notre sensibilité. Mais ce faisant, et c'est là déjà une première définition qu'on peut donner de la culture dans un sens tout à fait différent de ce qu'on entend d'habitude. La culture, c'est peut-être déjà d'abord la fréquentation des œuvres. C'est-à-dire que faut-il être cultivé pour comprendre une œuvre d'art ? Non. Parce que, justement, c'est en les fréquentant, ces œuvres d'art, qu'on peut enrichir notre vision du monde et qu'on peut, ce faisant, découvrir, finalement, avec une paire de lunettes tout à fait nouvelles, quelque chose qui nous entoure différemment.
C'est-à-dire qu'au fond, la culture, ici, est à comprendre aussi au sens presque agricole du terme. Hein. C'est, on se cultive, c'est-à-dire on développe en soi, par la fréquentation des œuvres d'art, l'élément culturel qui nous permet peut-être ensuite de les comprendre encore mieux.
Absolument. Et puis, tout de suite, avant de passer au deuxième axe, j'insisterai aussi sur le fait que vous parliez tout à l'heure de l'opposition entre comprendre et expliquer. Ça me paraît très important de montrer ici que c'est pas l'explication ou l'analyse, l'accumulation, la juxtaposition d'éléments de compréhension qui peut justement permettre de saisir le sens de l'œuvre. Il s'agit de quelque chose de tout à fait particulier, qui satisfait à la fois pourtant l'intelligence et la sensibilité. C'est le sens de ce que va montrer Kant, hein. Et il va montrer aussi que l'œuvre de génie, celle qui est produite justement par celui qui a un don inné, un don qui est une sorte de miracle de la nature, n'obéit pas à des lois de fabrication.
Ça, c'est la deuxième partie. Hein.
Ça, c'est la jonction avec la deuxième partie. Mmh. Je le mettrai déjà dans la première partie parce que là, c'est la compréhension relève plutôt d'une harmonie des facultés que d'une explication proprement dite.
Et la troisième partie, dans ces conditions.
Alors,
juste une question d'ailleurs, avant d'annoncer deuxième et troisième partie, est-ce que vous annoncez votre plan dans l'introduction, ou est-ce que vous vous contentez de poser une question qui est la question à laquelle vous répondrez en conclusion ?
Alors, je dirais que ça dépend un petit peu de l'élève et de son habileté. C'est pas forcément...
Si vous corrigez des copies, est-ce que vous jugez, par exemple, un élève ? Puisque on sait l'importance de l'introduction, il faut le dire à chacune de nos émissions, on sait à quel point l'introduction est essentielle. Est-ce qu'au fond, c'est un critère pour vous, corrigeant des copies, de trouver dans l'introduction l'annonce du plan, ou est-ce que vous vous satisferez ou satisferiez d'une simple question?
Alors, je me satisferais tout à fait d'une simple question. C'est-à-dire que l'annonce du plan peut apparaître comme redondante à partir du moment où le problème est bien posé. Après, si l'élève a envie de détailler un petit peu ce qu'il va faire, c'est absolument pas un écueil. Mais pour ma part, le problème essentiel suffit.
Donc, deuxième et troisième partie, puis après, on va aller dans le détail de la première avec vous.
Alors, la deuxième partie, je ferai un renversement, tout simplement, en montrant qu'il faut posséder des éléments de culture pour comprendre la majorité des œuvres d'art. Je montrerai déjà que l'appréhension, le rapport qu'on a avec l'œuvre d'art suppose déjà d'avoir hérité d'un sens de la culture. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui nous empêche de traiter une œuvre d'art comme moins que rien, comme quelque chose de négligeable? C'est bien parce qu'on a hérité de valeurs. Et puis, il y a évidemment, de toute évidence, des œuvres qui sont extrêmement hermétiques si on ne peut pas les replacer dans un contexte et si on ne bénéficie pas d'un certain nombre d'éléments de culture. On pourrait en citer beaucoup. Et puis, je pensais également à l'art contemporain, dont il faudra dire un mot. Et à tort, on pense, parce que justement son abord est très différent des œuvres plus classiques, on pense qu'on peut se passer totalement d'éléments de culture pour le comprendre. Ce qui, d'ailleurs, de la part du spectateur, suscite souvent une perplexité digne de ce nom et tout à fait remarquable. Mais en réalité, l'œuvre contemporaine me paraît être une réinterprétation manifeste de toute la culture et supposer au contraire d'énormes notions d'histoire de l'art, en particulier pour les œuvres les plus récentes, celles qui se situent après le ready-made de Marcel Duchamp. On reviendra là-dessus, je pense.
C'est-à-dire que l'art contemporain, d'une certaine manière, fait appel à l'intelligence tout en s'offrant à tous.
Absolument.
Et c'est une des difficultés autour de l'art contemporain. J'espère qu'on aura le temps de le faire tout à l'heure. Ça dépendra
du paradoxal, oui.
Du temps de votre copie, Anne-Sophie Rémy. On part tout de suite.
On part
Il
tout
n'est
suite.
Nul besoin d'être cultivé pour comprendre une œuvre d'art, si je vous ai bien entendu. C'est le premier axe auquel vous voulez donner sa chance dans cette dissertation. Donc vous commencez par prendre au fond le contre-pied de la question elle-même.
Oui, alors comprendre, c'est comprendre, c'est-à-dire faire sien, s'assimiler l'œuvre, ouverte par définition à une multitude d'interprétations possibles. Il y a un peintre comme Fernand Léger qui a très bien dit ça. Il a dit que le but de l'œuvre d'art, c'est de ravir, c'est-à-dire de néantiser le présent qu'on a sous les yeux, de nous en éloigner pour nous laisser accès à une libre liberté totale de l'imagination, à quelque chose qui est de l'ordre du ravissement, de l'émotion frappante, ouverte donc à tous, hein, sans distinction de possession de culture.
Et donc, à cet égard, la détention d'une culture particulière n'est pas un élément de l'émotion elle-même. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin pour être ému d'en savoir davantage. On peut ne rien savoir et être ému quand même.
Absolument, ça peut même faire écran d'en savoir trop. On en parlait tout à l'heure à propos du philistin, le stakhanoviste de la culture, celui qui veut à toute force plaquer sur l'œuvre qu'il a sous les yeux.
Ce qu'il croit en connaître.
Voilà, ce qu'il croit en connaître, le bien connu, et puis finalement ça empêche d'arriver au sens profond de l'œuvre. Donc on parlait tout à l'heure aussi de Matthias Grunewald, il me semble que là on a une œuvre profondément émotionnelle, et ce mal des ardents qui est représenté, c'est aussi une métaphore de la condition humaine, c'est quelque chose qui nous donne un accès direct à la souffrance. Et on n'a pas besoin, à la limite, de savoir que le contexte de l'œuvre est religieux pour en goûter toutes les singularités.
Quand on lit, par exemple, les frères Karamazov, quand on lit l'intention qui était celle de Dostoïevski en écrivant les frères Karamazov, il dit lui-même qu'il a voulu faire un livre sur la religion. Or, ça n'est pas que ça. Ce serait déjà pas mal, d'ailleurs. Hein. Ça n'est pas que ça. Bien sûr, il y a des éléments fondamentaux de discussion du rapport entre, au fond, la question de savoir pourquoi il faudrait en passer par la religion pour en venir à Dieu, ou pourquoi il faudrait en passer par Dieu pour en venir à la religion. Mais si on laisse ça de côté, effectivement, en soi, alors que c'est une perspective qui est proposée par l'auteur lui-même, l'œuvre, savoir cela peut servir peut-être un filtre plus qu'une lumière jetée sur l'œuvre. Ça peut être aussi une façon de nous masquer d'autres dimensions abyssales, vertigineuses d'une telle œuvre, alors que c'est l'auteur lui-même qui prétend nous renseigner sur son intention.
Absolument, et c'est ce qui d'ailleurs confère aux œuvres une dimension tout à fait mystérieuse, une sorte d'aura que toute explication, toute interprétation, fût-ce par les historiens de l'art, ne pourra jamais complètement dévoiler. Et c'est ce qui contribue justement à l'aspect extraordinaire des œuvres d'art.
Mais comment est-ce qu'on démontre tout cela à partir du moment où c'est un appel à l'intuition, au fond à l'intuition sensible? Deux questions en fait. La première, c'est dans quelle mesure est-ce que la culture, loin d'être un filtre, ne peut pas nous servir, même avec Grunewald ou avec la victoire de Samothrace ou avec Mona Lisa, peu importe. Dans quelle mesure est-ce que la culture peut être le moyen d'une perception plus aiguë de l'œuvre d'art, au fond parce que quelqu'un a attiré notre œil sur des choses qu'on aurait négligées, faute de culture. Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, comment est-ce que vous construisez une argumentation dans cette première partie à partir du moment où vous faites appel justement à ce qui n'est pas argumenté, c'est-à-dire l'émotion?
Simplement sur le fait que comprendre, c'est participer justement à ce qui se dégage de l'œuvre. Hein. Et donc ici, j'éloigne un tout petit peu pour un temps la question de l'explication et de l'analyse qui va venir ensuite, pour simplement montrer qu'avec quelque chose à quoi on participe, qu'on fait sien, on peut peut-être ouvrir son regard vers une dimension différente du monde.
Et dans ces conditions, quelles sont les limites d'une telle argumentation ? Puisqu'il va falloir quand même qu'on en vienne à la nécessité d'infléchir ce propos, hein, de le faire basculer de l'autre côté. Non pas d'un côté contradictoire, puisqu'il ne s'agit pas de faire thèse et antithèse naturellement, mais au moins de creuser suffisamment ce propos pour en montrer les limites. Anne-Sophie Rémy, comment est-ce qu'on va montrer les limites d'un tel propos, alors qu'au fond il renvoie à une expérience qu'on peut tous faire ?
La limite, c'est peut-être justement l'écueil de la subjectivisation absolue de l'œuvre.
C'est-à-dire
ouais. Celle qui consiste à plaquer sur l'œuvre tout et n'importe quoi, peut-être aussi à projeter sur elle des choses qui sont, on va dire, d'un ordre purement intime ou émotionnel. Et du coup, on a là une barrière qui est celle de la communicabilité, tout simplement. On est dans le registre peut-être de l'opinion pure ou d'une émotion choc, mais dont on ne peut pas parler. Donc il me semble que ce qu'on pourrait justement traverser et dépasser...
Il y a Kant derrière tout ça,
parce que justement, c'est Kant qui va poser l'idée d'une communicabilité du sentiment esthétique. Ça, c'est très important, parce que tant qu'on en est à la saisie intuitive, eh bien, on est dans sa monade, en quelque sorte, on est isolé des autres, et puis on aime ou on n'aime pas. C'est comme le vin des Canaries qu'on trouve agréable ou qu'on trouve désagréable, là-dessus, il n'y a pas à discuter. Mmh. Donc je pense qu'il est là, le petit palier qui permet de passer justement à une compréhension différente du terme comprendre, justement.
Le point de bascule, c'est donc, par exemple, hein, laissons de côté les œuvres d'art provisoirement, puisqu'on est chez Kant, et Kant privilégie la beauté naturelle sur la beauté artistique.
Absolument.
Le point de bascule, c'est, par exemple, le fait de regarder un coucher de soleil et de dire c'est beau, et de s'apercevoir, au fond, qu'en le disant, en disant c'est beau, on parle sans être pour autant impérialiste ou totalitaire ou sans présumer des opinions des autres, on parle malgré soi au nom de l'humanité entière. Et c'est au fond, c'est ça, c'est ce basculement d'une opinion qui, sans abuser d'elle-même, sans se prendre pour une norme, assez spontanément, parle au nom de l'humanité entière. Le fait est que quelqu'un regardant un coucher de soleil à côté de vous et trouvant ça moche, vous allez vous-même le regarder comme un être incongru, sans être pour autant tyrannique.
Oui, c'est le paradoxe du sentiment esthétique, c'est-à-dire quelque chose qui satisfait l'intelligence, parce que normalement, ce qui est communicable ou ce qui est partageable, c'est ce qui est du domaine du purement rationnel. C'est quelque chose qui peut être à la limite sujet de démonstration. Et puis, de l'autre côté, dit bien Kant, la sensibilité, c'est quelque chose qui est purement personnel. Alors là, on a une modulation conjointe, justement, des deux. C'est-à-dire que ce qu'on appelle beau, c'est à la fois quelque chose qui satisfait l'intelligence et puis en même temps, on sait que c'est un sentiment qui peut être étendu à tous.
C'est la beauté universelle et non conceptuelle.
Et non conceptuelle.
Dont il parle au paragraphe 9 de la critique de la faculté de juger. Un texte comme celui-là est un texte qu'on doit connaître en terminale. En tout cas, on doit connaître la proposition. La beauté est ce qui plaît universellement sans concept. Savoir cela, c'est indispensable. C'est au programme de terminale. Pour le coup, comment est-ce qu'un élève s'en sort s'il n'a pas Kant dans sa musette ?
J'ai peine à imaginer qu'il n'ait pas vu Kant quand même.
Mais ouais, là, il a du mal.
Là, peut-être a-t-il un peu de mal, ou peut-être peut-il simplement s'en tirer en reprenant l'argument qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire montrer qu'une juxtaposition de points d'analyse ne suffit pas à dégager l'âme du tableau. Par exemple, je pense au Van Eyck bien connu, Les époux Arnolfini de 1434. Bien sûr, il y a un miroir de Luc, il y a des socs du Maroc, il y a toutes sortes d'éléments sur le tableau dont on peut montrer que leur conjonction symbolique dégage un sens. Mais il y a aussi finalement la symphonie texturielle que le peintre a mise en œuvre, tout ce qui n'obéit pas finalement à une analyse rationnelle. Et donc, avec cette idée d'âme peut-être de l'œuvre, il peut peut-être s'en tirer sans Kant. C'est juste une suggestion.
Alors donc, on est toujours dans la première partie, hein, et on voit que vous récusez, vous corrigez la subjectivité d'une émotion intuitive, spontanée, singulière, individuelle, par la valeur universellement communicable.
Absolument.
Du sentiment de la beauté tel que Kant permet de la penser. Ça, c'est donc la première partie. Et est-ce qu'on est avec ça, avec ces deux articulations, enfin ces deux étapes, est-ce qu'on arrive au terme de la première partie?
Oui, on arrive au terme. Et puis, c'est très important ça m'amène à mon articulation. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais aussi ajouter sur Kant, qui peut être intéressant pour l'élève, c'est que finalement, l'idée, c'est que la contemplation, la fréquentation des œuvres d'art géniales est à même de produire une culture du goût. Et il me semble que cet enjeu-là n'est pas du tout absent de la critique de la faculté de juger. Hein, autour du paragraphe 39-41 de l'analytique du sublime, on voit que Kant a quand même en tête l'enjeu des Lumières, qui est non seulement un enjeu politique, mais aussi un enjeu qui passe par l'esthétique. Cette communicabilité du sentiment du beau permet de créer un lien d'unité, finalement, à l'intérieur d'une même société, c'est
très clair. On peut faire deux objections à ce que vous dites quand même, Anne-Sophie Rémy. La première, c'est qu'aucun élève de terminale, à moins d'être exceptionnel, a lu le paragraphe 40 sur le sens commun, à moins d'avoir un super prof et d'être lui-même passionné par ce qu'il entend. Ça, c'est la première objection. La deuxième objection qu'on peut faire à ce que vous dites, c'est que les références esthétiques dans la critique de la faculté de juger, il y en a deux.
Oui,
la première, c'est les vers d'un empereur, et la seconde, c'est un rossignol. Je veux dire, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est assez pauvre. Quand on prend les leçons d'esthétique de Hegel à côté, c'est quand même une autre ampleur. Kant lui-même, manifestement, n'y connaissait pas grand-chose.
Oui, mais on n'a pas besoin de passer par Kant, parce que si on pense tout simplement à la vocation du musée, c'est bon. Je veux dire, quand Napoléon fait des musées, met en place des musées, il est dans cette ligne-là, il est dans cette continuité-là. Donc le simple fait de réunir des œuvres d'art dans un musée, ça, n'importe quel élève peut y penser. Hein, et puis d'y avoir accès comme ça, bah, même si on ne connaît pas Kant, on voit bien qu'il y a une fonction. On voit bien qu'on partage quelque chose et que ce quelque chose peut être sujet d'une appréciation intersubjective dont on peut parler, etc.
Au fond, est-ce qu'à la place de Kant, un élève qui n'a pas lu Kant peut se servir des fils indéfinis de gens qui se pressent devant une exposition Bonnard, Gauguin, ou quelque part pour dire, mais voilà, il y a bien là quelque chose qui relève d'une communauté constituée par une expérience commune.
Ah, il me semble que tout à fait. L'élève n'a d'ailleurs pas besoin de prendre des exemples extrêmement philosophiques, il peut aussi partir du concret, et c'est tout aussi bien, c'est aussi valorisé dans une copie, parce que c'est le sens même de la démarche philosophique, après tout, que de montrer comment à partir du concret et du brut, on arrive à élaborer une réflexion.
Donc vous corrigez une copie terminale, ça ne vous gêne pas qu'au lieu de citer la critique de la faculté de juger, on parle des files d'attente devant l'entrée d'une expo?
Non, bien loin de là, bien loin de là. Au contraire, je trouverais que c'est une manière pour l'élève d'actualiser parfaitement ce à quoi il a accès.
Alors, conclusion de la première partie, passage à la seconde, Anne-Sophie Rémy.
Ah ben, je dirais déjà que l'émotion ne suffit pas. L'émotion n'est pas le tout de l'art. Et que, par simple expérience, on peut être justement amené à se rendre compte qu'il faut quand même posséder des éléments contextuels, des éléments qui nous permettent de saisir le sens historique d'une œuvre. Et puis aussi réaliser que l'œuvre même et la place qu'on lui accorde, tout ça, c'est tributaire de la culture.
J'aurais voulu être un artiste.
Anne-Sophie Rémy est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, faut-il être cultivé pour comprendre une œuvre d'art? C'est la question du jour.
Et pour pouvoir me trouver.
Anne-Sophie Rémy, juste un point quand même sur cette chanson, après tout, j'aurais voulu être un artiste, sur le blues du businessman. Ce qu'il exprime ici, c'est qu'il y a dans l'existence quelque chose qui relève de l'inquantifiable, que l'accumulation des richesses ou d'une réussite objective, manifeste, ostensible, ne permet jamais d'atteindre. Est-ce qu'en ce sens, le propos qui est celui de Michel Berger, au fond, hein, ou d'Éric Dubois qui le chante, mais le propos qui est celui de Michel Berger n'est pas de montrer qu'il y a quelque chose qui échappe échappe à la quantité, c'est-à-dire aussi, en un sens, à l'accumulation de savoir ou de culture.
Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est tout à fait net dans cette chanson, et puis ça rejoint un sentiment commun qu'on a aussi de l'idéalisation de l'œuvre d'art. Mais justement, ça m'amène aussi parfaitement au début de la deuxième partie, parce qu'il y a justement quelque chose de reçu, d'hérité, dans cette valeur que nous accordons spontanément à l'œuvre d'art, au fait
d'être un artiste. À l'œuvre d'art ou à la culture ?
Au fait d'être un artiste, au fait de valoriser les œuvres d'art.
C'est-à-dire qu'en fond, ce que vous dites, c'est que c'est un fait culturel
de
privilégier l'œuvre d'art sur la culture qui y conduit.
C'est tout à fait ça.
C'est-à-dire alors ?
C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui nous empêche de nous servir d'un Rembrandt autrement que pour l'admirer dans un musée ? On pourrait, c'est déjà dans Hannah Arendt, la crise de la culture, et puis Nelson Goodman reprend ça, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de nous en servir pour boucher un trou dans une fenêtre ? C'est bien parce qu'on a, on se situe au confluent de générations qui nous ont appris à valoriser les œuvres d'art, qu'on peut justement avoir ce point de vue valorisant sur elle et aussi conscient d'une véritable richesse qu'il y a là.
Ou alors il y aurait un hyper-snobisme d'une hyper-culture qui consisterait à considérer que Rembrandt, c'est bon justement à boucher les fenêtres.
Oui, alors peut-être est-ce là un point de vue un peu paradoxal, mais on pourra peut-être en parler quand on abordera la question de l'œuvre d'art de masse, qui justement n'est pas du tout dans cette optique d'une culture humaniste.
Alors allons-y maintenant, on est donc dans cette deuxième partie où vous allez réhabiliter la présence ou la nécessité de la culture dans l'évaluation, je mets le mot entre guillemets, d'une œuvre d'art.
Oui, absolument. Alors tout d'abord, justement, une œuvre ne fonctionne comme œuvre d'art que dans un réseau de relations symboliques qui sont mises en place par la culture. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il fallait déjà avoir le sentiment qu'il s'agissait bien d'une œuvre d'art pour pouvoir la goûter comme telle. Déjà. Et puis en plus, ça veut dire aussi que si on la met finalement dans un cadre qui n'est pas un cadre institutionnel, eh bien on ne pourra peut-être pas en avoir une appréhension artistique. Par exemple, une pierre sur la route, c'est une pierre sur la route. Si elle est mise au musée, c'est autre chose qu'une pierre sur la route. C'est ce que dit Nelson Goodman très bien dans Manière de faire un monde, un ouvrage qui date de 1977. Il parle justement à ce propos de l'activation de l'œuvre d'art. Il dit que pour qu'une œuvre soit œuvre, c'est pas tellement la question des critères communs qu'on peut trouver pour définir des choses qui outrepassent toutes nos catégories, c'est-à-dire des choses aussi différentes qu'une cathédrale, une œuvre picturale, une statue, etc., qu'on ne peut pas vraiment unifier sous un même registre. Il pose la question sous la forme « quand y a-t-il art ?» Pour lui, ça lui paraît beaucoup plus pertinent.
Quand on le met dans un musée.
Voilà. Quand on met l'œuvre dans un musée, il y a un geste symbolique, il y a une désignation, quelque chose qui s'offre à notre attention et qui permet justement d'aborder des choses très différentes.
Mais il y a des limites à ça, Anne-Sophie Rémy, parce que si vous prenez, mettons qu'une œuvre soit œuvre d'art quand on la met dans un musée, on peut considérer aussi qu'au même titre, un violoniste est un violoniste quand on le met sur scène. Et donc un violoniste dans le métro n'est pas un violoniste. Donc vous mettez Yehudi Menuhin dans le métro, vous n'avez pas un violoniste. Vous avez un type qui fait la manche. En grattant son vieux violon. Au fond, est-ce que... Alors, on pourrait dire en ce sens qu'effectivement, il faut une culture ou il faut l'accoutrement de la culture pour s'apercevoir qu'on est en présence d'un artiste ou d'une œuvre d'art. On pourrait aussi s'en servir pour dire qu'au fond, la culture n'est qu'un snobisme qui nous rend attentifs à ce que nous ne regardons pas quand on ne nous a pas dit de le faire.
Mais il y a exactement ça, c'est-à-dire deux limites à mon avis. La première, c'est la question du geste que vous évoquiez. Alors on peut parler de snobisme, mais il me semble qu'on est arrivé à un point quand même de la culture, en tout cas celle qui se manifeste dans l'art contemporain, où on ne peut pas faire l'économie de ça, l'économie de cette définition justement symbolique du geste artistique. C'est tout à fait la période qu'a ouverte Marcel Duchamp quand il a mis au musée, quand il a installé au musée le ready-made. Je veux dire par là, un ready-made, c'est un objet manufacturé qu'on va traiter de manière tout à fait arbitraire comme une œuvre d'art. Je veux dire par là que c'est pas tellement la question simplement de savoir si l'œuvre est au musée, c'est aussi la question de qui la met au musée. Il faut une caution institutionnelle pour ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai amené un collage avec des feuilles mortes dans le musée près de chez moi, personne ne voudra le recevoir, ça ne va pas intéresser comme œuvre d'art.
Mais si c'est Marcel Duchamp qui le fait, ça va intéresser.
Voilà.
Mais est-ce que c'est pas un gros problème, ça, Anne-Sophie Rémy, justement ? Est-ce que c'est pas le moment où la culture nous éloigne d'autant plus de l'œuvre d'art que, au fond, c'est l'argument d'autorité de ce celui qui muséifie ou muséographie une œuvre qui lui donne sa valeur d'œuvre.
C'est un énorme problème et c'est ce qui fait d'ailleurs toute l'ambiguïté de l'art contemporain. Parce que d'un côté, l'œuvre d'art contemporain ou l'œuvre d'art contemporaine plutôt se présente comme inidentifiable par rapport aux autres objets du réel. Hein, on le voit bien avec le ready-made. Il n'y a pas de différence a priori et de nature entre un objet manufacturé sorti de l'usine et puis une œuvre d'art. Il y a, on va dire, une ressemblance de plus en plus grande avec un objet commun. Il n'y a plus non plus forcément de savoir-faire artisanal particulier. Et donc, c'est ouvert à tous, en droit. Hein. Et le message qui est passé par l'œuvre contemporaine, c'est même que tout le monde pourrait le faire. Au même titre que l'artiste qui met l'œuvre au musée. Et puis en même temps, bah, s'il n'y a pas cette caution institutionnelle, néanmoins, ça ne fonctionne pas. On le voit bien. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai beau me rendre dans un musée et prétendre être un artiste, je ne suis pas reconnue si j'ai pas le sésame, entre guillemets.
Donc comment fait-on pour justifier la culture en matière de compréhension d'une œuvre d'art sans verser dans l'argument d'autorité qui voudrait qu'au fond, en guise de culture, ce soit une certaine culture particulière qui est arbitrairement portée au pinacle, tel ou tel artiste, et qui leur vaut donc d'avoir le droit de vie ou de mort sur une œuvre d'art, au fond, et de décréter que telle chose, qu'une boîte de soupe Campbell est une œuvre, alors que si c'est un autre qui le fait, ça ne l'est pas.
Bah moi, je répondrais tout simplement en invoquant ce que Nathalie Heinisch dit à propos de
l'art. Ça, c'est la sociologue Nathalie Heinisch.
Oui, ouais. Voilà. Elle parle de notre société contemporaine et elle dit c'est la société du pluralisme. Je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire que finalement, on est dans une espèce d'immense va-tout de la culture, où on peut se réclamer de diverses influences et de divers courants. C'est-à-dire qu'il y a eu le fait Marcel Duchamp, ready-made, geste symbolique qui crée l'art. Donc, il y a des artistes qui se réclament, entre guillemets, de cette tradition-là. Et puis, à l'identique et à côté de ça, il y a quand même encore toute une tradition d'expression de la subjectivité qui demeure. Donc, dans un mode de rapport aux œuvres d'art que je qualifierais, moi, de beaucoup plus classique, si vous voulez. Hein, je dirais que, voilà, il y a cette juxtaposition, finalement, de la part de l'artiste comme de la part de la société qui accepte une grande variabilité de position par rapport à l'art. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qui suscite le sentiment de perplexité très souvent de la part du spectateur, c'est-à-dire qu'il est complètement désarçonné parce qu'il a là affaire à quelque chose qui se présente sous un jour anodin et dont il ne sait pas très bien quoi faire. Il ne peut pas vraiment plaquer sur l'œuvre d'art contemporaine, du moins certaines œuvres d'art contemporaine, une recherche du beau par exemple, parce que c'est de toute évidence plus l'objet. De la même façon, on a aussi, entre guillemets, déconstruit l'objectif romantique, c'est-à-dire l'expression de la singularité de l'auteur. Tout ça n'est plus vraiment en lice. Donc, quoi faire avec cette œuvre d'art si c'est juste un geste symbolique plaqué, comme on en parlait tout à l'heure?
Mais prenons un exemple. Vous avez parlé de Proust tout à l'heure, oui. Sophie Rémy. Le dernier texte que Proust a écrit, l'histoire voudrait qu'il soit mort en l'écrivant, c'est la mort de Bergotte dans la prisonnière. Bergotte, c'est l'écrivain qui marche, c'est l'écrivain qui a du succès. Oui. C'est l'écrivain qui meurt en regardant un tableau qui existe, La vue de Delft, par Vermeer. Bon, il regarde ce tableau et voyant ce tableau, il y voit un petit pan de mur jaune. On n'a jamais vraiment su d'ailleurs où il se trouvait dans le tableau. Et il se dit, mes livres sont trop secs, j'aurais dû écrire comme Vermeer a peint ce petit pan de mur jaune avec un auvent. Et c'est un texte bouleversant puisque Bergotte meurt en se disant au fond qu'il est passé à côté de son œuvre et que tous les livres et le succès qu'il a reçu n'arrivent pas au talon, au petit doigt, à l'esquisse de ce petit pan de mur jaune avec un auvent. Et au fond, voilà un homme qui meurt en un sens, avant d'avoir vécu. Un texte comme ça, un texte de la prisonnière, l'avoir en tête quand on voit ce tableau, c'est un geste culturel, ou de culture, au sens non pas seulement culturel du terme, mais c'est un... Voilà, on se cultive avant d'aller voir ce tableau, c'est une façon de se cultiver avant de voir ce tableau, et ça permet d'être extraordinairement attentif aux détails de ce tableau, ne serait-ce que pour chercher l'inexistant petit pan de mur jaune qui est censé s'y trouver, Anne-Sophie Rémy.
Oui, bien sûr, c'est pas loin de là la seule œuvre qui fonctionne comme ça, si je puis dire. Les exemples seraient innombrables.
Par exemple
Je pensais au bas-relief égyptien. On a sans doute perdu quelque chose de leur aura, à la fois politique, magique, religieuse. C'était aussi des pans de communication idéologique.
Quand on les regarde juste comme des dessins, au fond, voilà. Et qu'on n'a pas le fin mot de l'intention qui leur a donné le jour.
Hein. Oui, d'autant plus que l'artiste égyptien ne représente que, de façon très codifiée, on le sait, hein, que les parties du corps humain qui lui paraissent importantes. Donc, après tout, ce dessin qui peut paraître un peu naïf, un peu figé, un peu bizarre, ne se conçoit peut-être que si on sait ça. Hein. Et puis, alors, les exemples seraient innombrables. On parlait tout à l'heure des œuvres ethniques. Quelquefois, pour comprendre une colonne totem amérindienne, il faut connaître la cosmologie, la cosmogonie qui en est à l'origine, ou le récit magique ou qui se transmet par la culture orale. Mais c'est vrai aussi d'un vitrail dans une cathédrale. C'est vrai aussi d'un poème du Parnasse qui fait référence à des mots rares, à des mots choisis et dont on peut penser que si on ne maîtrise pas particulièrement bien la langue française, il nous échappe.
Alors, dans ces conditions, on est à la fin de la deuxième partie, disons qu'on s'approche du terme de la deuxième partie, on arrive à l'idée qu'au fond, la culture qui était en un sens un filtre dans la première partie peut également fonctionner comme un exhausteur d'art dans la deuxième partie. Mais dans ces conditions, quelle est la limite de votre propos? Dans quelle mesure allez-vous infléchir encore une fois ce propos pour aller vers une troisième partie? Le faut-il dans la mesure où la première partie envisageait déjà le fait que la culture soit au fond un obstacle à la sensibilité de l'émotion? Vous étiez déjà à Kant de la première partie, donc comment est-ce qu'on va dans une troisième partie? Kant, en général, je le dis, statistiquement, Kant, c'est l'auteur des troisièmes parties. Vous avez commencé par lui.
Oui,
comment vous
sûr.
Finissez?
Eh bien, justement, par un rappel du concret, parce qu'il m'a semblé très important d'essayer de brosser, sinon exhaustivement, du moins de manière assez complète quand même, tout le champ du réel. Et je pense que, je dis pas ça du tout de manière péjorative, mais après tout, l'élève, lui, il lit plutôt des romans grand public, il lit plutôt peut-être Marc Lévy, des choses qui sont ce qu'on ne va pas mettre forcément du côté d'une culture littéraire classique. Et donc, il me paraissait extrêmement important de questionner aussi toute une partie des œuvres contemporaines qui ne rentrent pas à proprement parler dans ce qu'on a défini comme art contemporain qui suscite ce pluralisme, etc., et plutôt de parler de ce qu'on peut appeler l'œuvre d'art de masse. Il me paraît qu'il y a une dimension tout à fait étonnante et particulière dans ce qu'on définira comme l'œuvre d'art de masse.
Tiens, on va y aller vers l'œuvre d'art de masse. Avant ça, je voudrais qu'on entende juste la parole, rien que pour rire. Après tout, il faut bien se détendre dans une dissertation. Il y a bien un moment où un élève, à l'époque où on pouvait fumer dans les lycées, avant l'introduction de ces lois scélérates, avait le droit de fumer au milieu de sa dissertation, de sortir un instant pour fumer une cigarette. Alors, en guise de cigarette, c'est Florence Foresti qu'on va entendre.
Mais j'adore, je suis férue d'art contemporain, j'adore tout ce qui est art plastique, mais aussi art métal, art vert, l'art bois, l'art, l'art terre, l'art métal, j'ai dit,
oui.
L'art papier, comme par exemple fait Monsieur Gelluc sur du papier, enfin tout ce qui est globalement tout ce qui est artistique.
Alors la question, est-ce que pour autant vous seriez prête à louer une œuvre contemporaine, comme le propose par exemple l'Artothèque de Saint-Cloud, pour deux mois?
Non, alors bof. Non, moi je pense que ça n'a aucun intérêt de louer une œuvre pour une durée de trois mois ou de même un trimestre, parce que pour voir un tableau, Laurent, ça prend deux secondes. Vous voyez,
oui.
Par exemple, hop, tac, j'ai vu le tableau.
Oui.
On n'a pas besoin de trois mois pour le voir. Ou alors, il faut vraiment que la toile soit très, très grande. Et alors, tac, on fait... Ou alors, faut qu'il y ait plein de personnages sur la toile ou des arbres.
Pourquoi des arbres?
Bah, si on veut regarder feuillage par rameau, alors là, oui, ça peut prendre trois mois, mais c'est...
Franchement, ça permet aux gens d'avoir une œuvre originale chez eux et sans se ruiner.
Originale, des fois, hein, parce que... Enfin, je veux dire, des fois, c'est d'un banal.
Non.
Par exemple, la Marilyn Monroe, là, de...
Andy Warhol.
Bon, eh ben, on la voit partout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, le mec, il s'est pas foulé. Il a vu que ça marchait, il en a fait 14 500 la même fois, la même chose.
Elle pose les bonnes questions, mine de rien, Anne-Sophie Rémy. Hein, puisque la Marilyn de Warhol, comme elle dit, on la voit partout.
Et oui, c'est exactement ça, la question de l'art de masse. C'est celle qui nous fait rentrer dans le ventre de cette société des loisirs que définissait Hannah Arendt. C'est-à-dire une société dans laquelle... l'œuvre d'art devient un produit de consommation, comme parmi les biens courants. Et elle fait une comparaison très amusante. Elle dit que c'est comme les petits pains qu'on mange tout chaud sortis de la boulangerie, c'est leur fonction. Et elle dit qu'on a tous besoin de loisirs, par ailleurs, qu'il n'y a pas à récuser cette idée-là ou à exercer une espèce de snobisme intellectuel en disant « il ne faudrait pas ». Par contre, ce qu'elle dénonce, c'est justement deux choses. C'est le pillage qui est fait des œuvres classiques. Et elle dit il y a des auteurs, des grands auteurs qui ont résisté à des siècles d'oubli. Par contre, ce n'est pas sûr qu'ils vont résister à une version divertissante de ce qu'ils ont à dire.
C'est-à-dire la Joconde avec des moustaches, c'est ça l'ennemi au fond.
Peut-être, peut-être la Joconde avec des moustaches, ou encore, je dirais peut-être plus, les représentations sur les boîtes de chocolat des peintres impressionnistes qu'on voit en demi-douzaine. Et ça nous amène exactement à une question très importante, qui est justement celle de la réduplication de l'œuvre actuelle, je dirais. Puisque c'est ce que Roger Pouivet souligne très bien dans son livre, qui parle de l'ontologie de l'art de masse, un livre qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'âge de sa mondialisation ». Il explique qu'il existe un type d'œuvre complètement distinct des œuvres dites classiques. Alors, dans les œuvres classiques, je précise qu'on peut mettre les œuvres de l'art contemporain. Et cet art qui se définit comme un art de masse, c'est des œuvres qui n'ont pas de singularité, c'est-à-dire dont la réduplication est obligatoire. Je pense par exemple au film Le Titanic ou à tel album de Madonna. Ils sont faits par définition pour être réduplés à grande échelle et pour être tous semblables. Et dans cette mesure, eh bien, il faut aussi qu'ils soient directement consommables. Donc, la caractéristique essentielle de l'art de masse, c'est justement qu'elle ne suppose pas d'anticipation préalable, qu'elle ne suppose pas de prénotion culturelle. Il faut que ça gomme, si on veut, les différences singulières qui peuvent être celles des différents lieux géographiques qui vont recevoir l'œuvre, des différentes personnes avec leurs habitudes, leur vécu. Il faut que ce soit absolument neutre, ou du moins qu'il y ait le minimum de prénotion culturelle susceptible de faire obstacle.
Donc au fond, la thèse est de dire que la reproductibilité, pour employer un mot fameux sur l'œuvre d'art depuis Benjamin, la reproductibilité de l'œuvre d'art influe sur son contenu, c'est-à-dire que le contenu d'une œuvre est désormais tributaire du fait qu'elle est produite en série.
Alors, oui, alors pas tout à fait, parce que vous allez me dire, mais alors à ce compte, il y a quand même les œuvres complètes de Balzac en Pléiade, et puis il y a le livre de poche.
C'est exactement alors, ce que j'allais vous dire.
Voilà, alors c'est ce que Pouivet distingue en disant, d'abord il y a un type. Le type, c'est Madame Bovary, par exemple, qui n'existe pas. Il n'existe que dans les occurrences qui en sont données. Mais il y a quand même une différence de nature avec ce que j'appelle œuvre d'art de masse, parce que on ne peut pas vraiment parler d'occurrence particulière pour un album de Madonna. Il est vraiment conçu pour être... Il n'est pas sujet, par exemple, à une traduction. Si je prends un autre exemple, c'est-à-dire Tolstoï, on va s'inquiéter de la traduction. C'est pas la même chose de lire Tolstoï en russe et puis de le lire en traduction. Pour une œuvre de Daniel Steele, la traduction, ça compte pour rien. Et pour une œuvre de Madonna, c'est toujours la même. C'est bien ça, sa fonction. C'est qu'il n'y a même pas de modulation par rapport à des éditions de luxe. Je sais qu'on peut peut-être discuter d'un concert live ou de quelque chose qui serait, on va dire, simplement un enregistrement en studio. Mais de plus en plus, quand même, les œuvres, si on parle des œuvres musicales, elles ont tendance à être enregistrées en studio et le concert, finalement, apparaît plutôt comme la copie de cette première
Revenons au cas de figure d'Andy Warhol, justement, parce que, après tout, Florence Foresti en parle et il est implicitement contenu dans ce que vous avez l'air de dire, Anne-Sophie Rémy. Andy Warhol prend des objets de consommation courante et les expose, les exhibe. Mm-hmm. Et... on se demande, dans ces conditions, quelle est la pensée de derrière. Et la pensée de derrière, c'est tout le génie d'Andy Warhol, c'est qu'il n'y a pas de pensée de derrière. C'est-à-dire qu'il montre bien qu'il n'y a rien derrière. Et qu'en montrant cette pure surface, cette pure phénoménalité de la boîte de conserve, il montre qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de secret. Au fond, il manifeste des œuvres sans secret. Alors c'est extraordinairement subtil, cet éloge de la surface que propose Andy Warhol, le pop art de façon générale. L'intention est extraordinairement subtile. La réalisation l'est moins, paradoxalement, puisqu'il ménage la possibilité universelle, au fond, de prendre des boîtes de conserve et de les photographier. Mais l'intention, elle, est extrêmement subtile. Et je me demande si, à cet égard, il n'y a pas un effet d'une sorte d'hyperculture, c'est-à-dire d'archiculture, qui aurait pour effet, cette fois-ci, non pas de nous donner à comprendre les œuvres d'art, mais de donner à détruire les œuvres d'art.
Oui, mais c'est assurément le passage qui permet justement ce passage...
Vers l'art contemporain.
Voilà, c'est la fin de l'art contemporain, ou du moins ce que vous évoquiez avec Warhol, qui permet peut-être le passage à ce que Roger Pouivet appelle lui l'art de masse. Je pense que c'est cette déconstruction ultime, cette idée qu'il n'y a pas de secret, qu'il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de profondeur dans l'œuvre d'art, qui a permis qu'après, on jouisse tout à fait de Titanic ou d'œuvres d'art qui sont faites justement pour supposer le moins possible de notions culturelles. Et s'il n'y avait pas eu ce passage justement par la déconstruction des œuvres d'art contemporaines, on pense peut-être cet accès aux œuvres d'art de masse n'aurait pas eu lieu.
S'il n'y avait pas eu Andy Warhol, il n'y aurait pas eu Titanic.
Ça va aussi de pair avec évidemment d'autres facteurs qui sont la possibilité d'industrialiser à grande échelle des produits de la culture, évidemment. Et puis ça suppose aussi. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à penser là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture à tout le monde et au tout venant et qui stipule que justement la culture n'est pas nécessaire. Et c'est à partir de là qu'on peut quand même, éliminer tout ce qui fait obstacle. Parce que le but, c'est la mondialisation. Le but, c'est la mondialisation de l'œuvre d'art, c'est sa diffusion à grande échelle, et c'est ce qui permet de dire que les buts qu'elle vise, les finalités qu'elle a désormais, si on parle de l'œuvre d'art de masse, hein, celle que j'ai définie comme tel film ou tel album à grande série, identique, réduplicable, etc., eh bien, cette œuvre d'art-là, elle a des buts, bien sûr, qui sont son extension, mais qui ne sont plus forcément des buts cognitifs, des buts moraux, des buts religieux, comme ceux qu'on pouvait assigner à l'œuvre, on va dire, classique, celle qui supposait, on va dire, un minimum de culture humaniste.
Allons au terme de cette émission, dissertation, on arrive au terme de l'émission, il faut conclure, vous avez une minute, élève Rémi.
Oui.
Pour synthétiser votre propos, qu'est-ce que vous diriez en réponse à la question de départ?
Je dirais quelque chose de simple, parce que je pense qu'une conclusion peut être brève et qu'elle n'a pas forcément besoin de récapituler tout l'objet de la dissertation. Il me semble qu'on peut trancher de manière ferme sur simplement ce qu'on a dit en troisième partie. Donc je dirais, pour terminer, qu'on peut donc distinguer un art classique qui suppose la maîtrise d'une culture humaniste et dont font bel et bien partie les œuvres de l'art contemporain, même si elles questionnent souvent cette culture sur un mode ironique ou distancié. Et puis, on peut les distinguer de l'art de masse, qui n'impose aux récepteurs des œuvres qu'elle produit la possession d'aucune prénotion culturelle véritable et dont on peut à bon droit considérer que son statut est en rupture totale avec l'histoire de l'art.
Je me souviens de tout, je vous en remercie, artiste déchu, peintre de l'oubli. Je me souviens de vous, je vous ai suivi, chanteur des rues et poète junkie.
Merci Anne-Sophie Rémy d'être venue nous voir. Faut-il être cultivé pour aimer une œuvre d'art, pour comprendre une œuvre d'art? Quel bon lapsus, tiens, au terme de cette émission. Faut-il être cultivé pour comprendre une œuvre d'art? C'était le sujet du jour. Je rappelle que vous enseignez au lycée de Neuchâtel, dans les Vosges. Merci encore d'être venu nous voir.
Merci Raphaël Antoven.
Et je m'adresse aux fous qui maudissent vos vies, artistes des limbes ou idoles au dollar.
Pour l'heure, il est temps de retrouver le journal des nouveaux chemins de la connaissance avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Pour bien préparer l'épreuve de philo au bac, on peut faire deux choses. S'entraîner à faire des dissertations, et c'est ce que vous proposez toute cette semaine Raphaël, mais aussi des livres qui ne sont pas des manuels ni des classiques, mais qui aident à leur façon à se familiariser avec la réflexion philosophique de manière simple, entraînante et accessible. C'est le cas de la collection Chouette Pensée aux éditions Gallimard dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Anissa Castel.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie en classe préparatoire et c'est vous qui signez dans cette collection Chouette Pensée donc un petit livre intitulé Un lieu à soi et qui pour le coup est vraiment accessible aux élèves de terminale puisqu'il présente les problèmes de manière extrêmement claire. D'ailleurs le texte ne se trouve qu'une page sur deux et sur l'autre page on a soit une citation d'un auteur en rapport avec le thème, soit un dessin qui illustre le propos. On trouve également beaucoup d'explicitation des termes en marge du texte dans des petites bulles qui rappellent qui est le philosophe dont vous parlez, qui donne une définition d'un terme peut-être un peu plus technique. Et on trouve dans ce livre donc, qui réfléchit autour du thème du lieu, la problématique du lieu dans la construction de l'identité d'un homme, le lieu où l'on vit, le lieu où l'on habite, on trouve deux thèmes majeurs qui sont au programme de terminale, hein, d'un côté l'identité et de l'autre la culture. Anissa Castel.
Oui, j'ai voulu réfléchir à la question de savoir dans quelle mesure le lieu, auquel on ne pense pas spontanément, pouvait être une partie intégrante de l'identité, au même titre que le temps. Et en général, on se représente que le temps, c'est très important parce que le rapport à la durée, à l'intuition, au souvenir, à la mémoire, fait qu'on se représente les sujets comme des sortes de... comme un millefeuille, comme disait Proust. Et j'ai voulu montrer que le rapport à l'espace, au lieu privilégié, le passage d'un lieu à l'autre, faisait aussi partie de notre identité, de ce qui nous définit en propre et qui, par bien des aspects, n'est pas choisi, pas plus que non, on ne choisit le lieu où l'on est. On ne choisit le rapport au lieu qui est tributaire d'une histoire. Il y a des enfants qui bougent beaucoup, qui s'habituent à se sentir bien quand ils ne s'enracinent pas quelque part, et d'autres qui ont l'habitude de se sentir en sécurité quand ils peuvent se poser dans un lieu qui est à eux et qui les protège du chaos que peut constituer par certains aspects le monde extérieur.
Donc la question est en fait celle de savoir comment à partir de du hasard qui fait que nous sommes nés à tel endroit et que nous avons peut-être grandi à tel endroit. Comment à partir de cela, ensuite, se construire un lieu à soi, peut-être soit effectivement en déménageant, en changeant d'endroit, mais aussi de manière plus métaphorique, avoir un lieu, ce n'est pas forcément un lieu de vie, une habitation, c'est aussi, vous le montrez dans votre livre, un corps qui est aussi une façon d'habiter le monde. Donc cette thématique-là du lieu était indissociablement liée en fait, au problème de l'identité en tant que telle.
Oui, au problème de l'identité, au problème de ce qu'on appelait autrefois, ça semble si désuet et bizarre, au rapport de l'âme et du corps, c'est-à-dire selon la très fameuse formule que tous les élèves de terminale connaissent, la question de savoir si on est dans son corps comme un pilote en son navire, qui devient quelquefois dans les copies de bac comme un pilote en son avion. Et justement, on n'est pas dans son corps comme un pilote en son navire ou comme un pilote dans l'avion, parce qu'on peut changer d'avion sans que cela influe en rien sur notre identité, tandis qu'on est rivé à son corps, on est obligé de rester dans son corps. D'où un rapport au corps qui est très compliqué. Un corps, ça n'est pas un lieu comme un autre, c'est le lieu dans lequel on a l'impression d'être campé dans le monde, d'être debout dans ce monde. Et quand le corps est défaillant ou fait défaut, parfois on a l'impression de n'être nulle part.
Et on a là la problématique d'un côté de la sédentarité, de l'autre du nomadisme, que vous reliez à deux philosophes, hein, à Socrate d'un côté et Diogène de l'autre. Diogène qui vit dans un tonneau et qui se dit être un citoyen du monde, parce que peu importe le lieu où il vit, il est au-dessus de ces contingences-là. Et Socrate, à l'inverse, qui lui se vante de n'être jamais sorti de la cité, puisqu'elle est pour lui le lieu par excellence où l'on peut philosopher.
Oui, absolument. Ce sont deux grandes figures qui montrent que l'enracinement a un sens philosophique qui n'est pas un sens immédiatement politique. Et j'ai fait un peu exprès de rattacher ces questions à des questions plus anciennes que celles de l'actualité immédiate pour montrer comment le rapport à l'espace, pour une part, n'est pas choisi, mais est un rapport hérité, encore une fois, comme le nom, comme le corps que l'on a. On ne l'a pas choisi. On n'a pas choisi non plus d'être nomade ou d'être sédentaire. Et je voulais indiquer qu'un peu de tolérance ne ferait pas de mal, peut-être, sur ces questions.
Et comment s'approprie-t-on l'espace, justement? Vous dites que le rapport à l'espace n'est pas choisi. On a pourtant un contrôle dessus. On peut choisir d'habiter un endroit. Et ce terme même d'habiter est assez intéressant, puisqu'il il renvoie à un rapport à l'espace qui est particulier, puisque lorsqu'on habite quelque part, on fait sien l'espace dans lequel on est. Quels moyens d'action avons-nous là-dessus, véritablement?
Se construire ou construire une identité, au fond, c'est une façon d'habiter, c'est-à-dire de s'approprier un espace qui vous a d'abord été imposé. Et ça commence tout petit. Les enfants ne choisissent pas d'avoir des parents qui déménagent tout le temps. Ils ne choisissent certainement pas de se retrouver avec deux lieux à eux parce que leurs parents sont divorcés. Rien de tout cela n'est choisi. Mais j'ai voulu mettre en exergue la très belle phrase de Pérec, que j'aime beaucoup et qui consiste à dire que vivre, c'est passer d'un espace à un autre en se cognant le moins possible. Et à partir d'un donné qu'on ne choisit pas, on peut planter ses racines, on peut se construire en ayant justement deux lieux à soi, en alternant. On va chez son père, on va chez sa mère et on est chez soi dans les deux endroits et on essaye de le faire en se cognant le moins possible. Parfois c'est difficile, parfois c'est facile.
Alors comment cette problématique-là du lieu et de l'identité est reliée à celle de la culture qui prend une place importante dans votre livre? Vous avez parlé d'enracinement. Comment se construit le lien entre les deux?
Il se construit en ceci que je crois que s'il y a un point consensuel concernant la culture, qui est une notion très difficile en fait, très difficile à penser, on peut attendre beaucoup de la culture. J'imagine que depuis le milieu du XXe siècle, on a tendance à en attendre très peu, à être très pessimiste sur la façon dont la culture peut changer les hommes, et en particulier moralement. En revanche, il y a quelque chose que l'on peut attendre de la culture, c'est le fait d'être capable de s'imaginer ailleurs, s'imaginer dans la peau d'un autre, comme dans le film Dans la peau de John Malkovich, qui est un film qui me fascine pour des raisons qui doivent vous sembler évidentes, s'imaginer ailleurs, né dans un autre lieu. Et peut-être que la culture, la littérature, le rapport à la langue, aux langues étrangères, nous rend capables de nous imaginer en un autre lieu, debout ailleurs, pensant donc autrement. Et c'est peut-être la meilleure part de la culture. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas cultivé, c'est quelqu'un qui voit de la barbarie dans toutes les différences.
Mais le terme même de culture, et j'insiste là-dessus, puisque c'est important, hein, notamment le jour du bac, de bien distinguer et définir les termes. La notion de culture renvoie à, effectivement, ce dont vous venez de parler, la culture, ce que l'on apprend, le savoir. Mais également, une culture, quand on parle d'une culture européenne ou une culture africaine, a un sens complètement différent.
Oui, c'est-à-dire elle renvoie à ce que certains de mes collègues et des philosophes actuels appellent très joliment une géographie de l'esprit. Et la culture, c'est un rapport à la géographie de l'esprit. On peut passer d'une langue à une autre, comme on passe d'un pays à l'autre. Ce sont des territoires où on apprend à planter des racines, que l'on s'approprie petit à petit. C'est pour ça que les langues, c'est peut-être aussi important que de voyager. Apprendre des langues étrangères, c'est entrer dans tout un monde.
Donc on voit bien que là, la notion de lieu a un sens physique, géographique, mais également un sens métaphorique et abstrait qui est tout aussi essentiel dans la construction d'identité.
Oui, abstrait et je dirais même symbolique, parce que j'ai aussi essayé de montrer rapidement dans ce livre que les passions du lieu sont des passions mortifères et que donc il faut pouvoir penser le lieu de façon symbolique et pas simplement le lieu physique réel.
Merci beaucoup Anissa Castel. Le titre de votre livre, c'est Un lieu à soi. On trouve ça dans la collection Chouette Pensée aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Adèle, merci à tous. C'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui. On se retrouve demain, comme tous les jours, de 10h à 11h pour la suite de cette semaine, la suite et la fin de cette semaine, de cette première semaine que les Nouveaux Chemins consacrent au bac philo cette année. On se retrouve aussi sur Internet à la page des Nouveaux Chemins où vous pourrez télécharger toutes les émissions de la semaine, écouter en ligne les émissions précédentes et retrouver, hein, je vous le dis tous les jours, les bibliographies de nos candidats bacheliers de la semaine, c'est-à-dire nos professeurs de terminale qui assument le risque qu'en général ils imposent à leurs élèves. Suite demain, donc suite et fin demain de cette semaine de dissertation, les Nouveaux Chemins accueilleront Élodie Cassan qui enseigne au lycée Jean Rostand de Villepinte et qui se demandera pour vous si l'histoire n'est qu'un récit. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde. Florian Delorme.